Et nous allons embarquer pour une nouvelle semaine de découverte qui va prendre de l'altitude. Vous allez comprendre pourquoi avec nos invités, Marik et Alain-Claude, qui nous accueillent ici au lieu-dit Vauguenige. Nous sommes à proximité de Saint-Pardoux et nous allons nous immiscer dans l'univers des montgolfières. Nous allons véritablement embarquer dans une montgolfière dans le courant de ce rendez-vous. Mais on va commencer avec vous, Marik, en parlant de l'association Haute-Vienne Montgolfière Club.
L'association a été créée au début des années 2000 grâce à son pilote Alain-Claude, donc. Qui a été tout à fait séduit par la montgolfière dans les années 90 et qui donc a décidé de créer cette association pour partager cette passion avec d'autres personnes. On a un petit peu eu de mal à trouver un ballon parce que un ballon ça coûte très très cher, donc il a fallu nous trouver un sponsor et le conseil général à un moment donné a décidé de se doter d'une montgolfière pour pouvoir communiquer sur son image. Et donc à partir de 2004, quand ce ballon nous a été confié par le Conseil Général, on a commencé vraiment là à pouvoir voler, faire voler des gens et faire découvrir le paysage limousin depuis la montgolfière.
Parce qu'avant d'être aujourd'hui un loisir ou une visibilité pour ces départements et ces régions, on a parlé d'histoire. Les montgolfières, ce sont les frères montgolfiers. Je crois qu'il y a eu un petit quelque chose avant du côté du Portugal. On avait déjà fait des premiers essais.
On dit que ce sont les frères montgolfiers qui ont fait les premières montgolfières, mais effectivement, il y a eu d'autres essais avant. Mais bon, ce sont eux qui vraiment ont été les plus connus en fait. Hein.
Et donc, utilisation dite alors pas véritablement de la montgolfière telle qu'on la connaît aujourd'hui dans l'univers militaire, c'était plutôt des ballons chauds. Il y a des distinctions à faire là, c'est un peu d'histoire, un peu de technique.
Effectivement, il existe deux types d'objets volants, de ballons en fait. L'un qu'on appelle le ballon à air chaud, c'est la montgolfière, qui a une bouche qui est ouverte au-dessus de la nacelle qui transporte les passagers, et on chauffe l'air qui se trouve donc dans ce ballon. Après, il y a ce qu'on appelle les ballons à gaz. Alors, les ballons à gaz, ce sont des ballons fermés qui sont gonflés soit à l'hydrogène, soit à l'hélium et qui, eux, évidemment, ont une autonomie beaucoup plus importante, mais qui aussi nécessitent une mise en œuvre financière beaucoup plus importante.
Et les premières montgolfières en France, c'est quoi? C'est les années 70?
Je dirais même les années 60, plutôt 65. Dans notre région, nous avons Arnaud de Villard qui a été le premier ou au moins un des premiers en France à faire de la montgolfière, qui a été l'instructeur de tous les anciens pilotes de montgolfière et qui est toujours actif dans notre association.
Pilote de montgolfière, c'est quoi? C'est aérostier, c'est ça?
Oui, on dit aérostier, effectivement.
Et c'est une formation particulière, évidemment?
Bien sûr, c'est une formation qui nécessite un examen théorique et puis des heures de pratique avant de pouvoir avoir cette licence.
Donc on va pouvoir embarquer en toute confiance dans notre prochain rendez-vous.
Oui, absolument. Le pilote est formé, mais c'est une question de vent surtout. De toute façon, les conditions de vol sont régies par les règles aéronautiques, conditions de vent, conditions de visibilité et conditions de hauteur de nuage. Donc tout ça restreint effectivement les créneaux pendant lesquels on peut voler.
Donc là aujourd'hui, a priori, on est bon.
Bah écoutez, oui, je ne sais pas quelle a été la météo prise par le pilote, mais on a moins de 10 nœuds de vent, c'est sûr. Donc on va partir.
Alors on se prépare.
Voilà.
Notre deuxième rendez-vous dans l'univers des montgolfières, nous approchons du décollage. On va rejoindre notre deuxième guide, et là il faut bien le dire, pilote, c'est celui en qui nous avons toute confiance hein, aujourd'hui pour ce rendez-vous, Alain-Claude, le pilote aérostier de cette montgolfière que nous allons emprunter dans quelques minutes. On a parlé de l'association, je voudrais qu'on parle un peu du matériel, qu'on découvre un peu cette montgolfière avant de prendre place à bord. C'est quoi ces trois éléments, en gros?
Alors, une montgolfière est constituée d'une enveloppe hein, qui a un volume plus ou moins important. Hein, ça part de 2000 m3 à aujourd'hui des gros ballons qui font 15 000 m3, hein, qui emportent beaucoup de passagers. Donc, l'enveloppe au-dessus, reliée à un cadre de charge qui porte le brûleur. Et donc, donc nacelle, brûleur et enveloppe.
On dit le brûleur ou les brûleurs, parce que là, c'est un double brûleur, par exemple.
Double brûleur, oui. C'est quand même beaucoup plus sécure. C'est mieux d'avoir deux moteurs sur un avion. C'est bien d'avoir deux brûleurs sur une montgolfière.
Alors vous, votre brevet, depuis les années fin des années 90?
Oui, fin des années 90. Alors j'ai 650 heures de vol maintenant. Et puis c'est toujours aussi régalant de piloter un ballon au gré du vent, en essayant de jouer avec les vents à différentes altitudes, se promener, essayer de trouver des objectifs, c'est vraiment passionnant.
La matière, on parlait de l'enveloppe par exemple, pour prendre les éléments dans l'ordre, l'enveloppe, elle a évolué par rapport à sa création, on était sur des matériaux beaucoup plus fragiles, aujourd'hui c'est du tissu, ça a vraiment changé.
Oui, au niveau technologique ça a beaucoup changé, hein. Faut pas oublier qu'au début c'était du après du papier de soie, hein, c'était de la soie, donc il fallait gonfler pour monter là-dedans, c'est le cas de le dire. Hein. Après, c'est devenu de la toile de spi, et puis maintenant, on a renforcé ces toiles de spi qui résistent au niveau de la chaleur, avec des maillages et des tressages beaucoup plus importants. Enfin bon, c'est vraiment des très très bons matériaux maintenant.
Le brûleur aussi, ça ne fonctionne pas comme au début, dans les années 1700.
Oui, c'était des vraies gamelles, des vraies casseroles, alors que là maintenant, on a vraiment des outils très performants.
Et au niveau de la nacelle ?
L'osier ou tout ce qui est fait en vannerie, hein, c'est encore le mieux parce que ce sont des matériaux légers qui se déforment et qui reprennent leur place. Il existe aujourd'hui les nacelles en aluminium, mais l'aluminium, si vous posez un petit peu fort un jour, si l'aluminium est déformé, c'est fichu, quoi.
Mais on ne se pose pas brutalement, vous me rassurez, ça n'arrive jamais.
Jamais. Non, de temps en temps, là, on peut se poser un petit peu plus rapidement, hein, si on prend un dernier petit thermique ou une dernière petite rafale. Alors en général, on va faire un saut, deux sauts, et la nacelle risque de se renverser à l'arrivée, mais ça arrive une fois sur, on va dire une fois sur 40, quoi. Okay. La plupart du temps, c'est quand même déposé très très soft.
On va voir ça dans nos prochains rendez-vous. Et justement, il y a des systèmes de dégonflement au cas où il y a des vents un peu forts. Je crois qu'il y a différents systèmes. Toutes les montgolfières ne sont pas faites pareil.
Oui. Alors maintenant, au-dessus de 3000 mètres cubes, en plus d'une corde de soupape qui tire sur la soupape pour laisser s'échapper l'air chaud, on a également un dégonflement rapide. C'est la soupape qui rentre à l'intérieur et donc là le ballon se dégonfle immédiatement.
Et pour terminer, c'est un matériel qui coûte extrêmement cher, hein. On l'a vu dans le premier rendez-vous, il a été long, difficile de trouver un ballon pour vous, pour l'association. On a un ordre d'idée du prix d'une montgolfière comme celle que vous avez, vous ?
Oui, une montgolfière sans logo, sans rien, une 3000 mètres cubes, ça commence à partir de 25-30 000 euros, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du business, notamment en Hollande, en France aussi, mais donc qui emportent beaucoup, beaucoup de passagers. Nous, on est une association, on n'a pas envie de grandir, on a envie de... Ça reste du plaisir, on n'a pas envie que ça soit du stacanovisme de la montgolfière, bien sûr.
Et on va prendre du plaisir avec vous dans le prochain rendez-vous. On commence à se préparer. Notre troisième partie, ici, du côté du lieu-dit Vauguenige. Nous sommes à proximité de Saint-Pardoux, on le rappelle, pour parler des montgolfières. Et là, le moment approche. Nous allons ensemble prendre le départ, nous envoler à bord de cette montgolfière qui va nous accueillir, pilotée par Alain Claude, pilote aérostier. Là, on est vraiment sur la phase des préparatifs. On va déployer la toile, on va préparer cette montgolfière. Mais avant de le faire, il faut faire quelques tests. D'abord, on peut préciser qu'on ne décolle pas à n'importe quel moment de la journée en montgolfière.
On décolle ou le matin très tôt, ou en soirée, lorsque l'activité et les turbulences générées par le soleil se calment. Vous comprenez bien que quand l'activité thermique du soleil est à son plein, il y a des bulles d'air chaude qui montent, des bulles d'air chaude qui descendent, et si on se trouve dans cette configuration avec un ballon, je chauffe, je descends, j'arrête de chauffer, je monte, ça devient très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on attend. C'est soit le matin, quand il n'y a pas d'activité thermique, soit en soirée, lorsque l'activité thermique s'arrête.
Donc si on a un choix à faire, plutôt vol de matin ou plutôt vol de soir ?
C'est quand même préférable les vols du matin, parce qu'en général, les vols du matin sont beaucoup plus stables. L'aérologie est plus stable, les vents sont plus réguliers, et il y a moins de risques de petites rafales, de fin de thermique. La luminosité est belle, il y a de la brume dans les fonds de vallée. Lever du soleil, on a souvent une visibilité qui est meilleure. Pour les photographes, moi je conseille immédiatement le vol du matin, immédiatement.
Alors les conditions météo sont également très importantes. Là on ne fait pas n'importe quoi, il y a des règles extrêmement précises à surveiller. Et même là, on est à quelques minutes d'embarquer et vous continuez de vérifier.
Oui, bien sûr, parce que là on a quelques nuages, quelques cumulus qui sont un peu plus, c'est un peu noir, des cumulus qui de beau temps, mais un petit peu noir, qui génère un petit peu quand même des petits coups de vent. Donc on va attendre que tout ça se cesse et puis on va décoller tranquillement après. On est dans un cadre aéronautique au niveau de toute la réglementation, bien sûr, aérienne. Et en plus, pour le ballon, on ne décolle pas au-dessus de 12 nœuds de vent, ce qui représente environ 20 km/h.
Alors, qui vous renseigne ?
Alors, on a des sites météo. Et là, en dernier lieu, tout à l'heure, j'ai téléphoné à Bellegarde, à la météo. Et donc, on est sur du variable 4-5 nœuds. Donc, ce qui fait 10-12 km/h.
Et avec un test que vous faites, vous, ici, qui paraît tout bête, avec un petit ballon.
Oui, avec un petit ballon d'hélium. Hein, ça va nous permettre de positionner le ballon dans le champ, parce qu'on gonfle le ballon, pour ceux qui font de la voile, au vent. Et donc, grâce à ce petit ballon qu'on envoie en l'air, il va nous donner la vitesse, grosso modo, qu'on peut apprécier, et la direction du vent.
Tout semble dans de bonnes conditions pour démarrer.
Allez, on va dire dans 35-40 minutes, on devrait être en l'air. Voilà.
Et on va voir qu'à la radio, c'est la magie, ça va beaucoup plus vite.
Non, mais on va l'amener là-bas, hein.
Alors ça a été vite, hein. On a un peu raccourci le temps, faut bien l'avouer. Là, la toile est quasi déployée. Juste, je voudrais qu'on parle du matériel technique. Vous n'avez pas de gros tableau de bord, on n'est pas dans un Airbus, mais vous avez quand même votre petit matériel. Il y a du matériel obligatoire.
Oui, alors comme matériel obligatoire, il y a l'altimètre variomètre qui va nous donner l'altitude, la hauteur, et qui va nous donner également la vitesse ascensionnelle ou la vitesse de descente en mètres secondes. Donc on peut monter grosso modo avec un ballon. Les vitesses idéales de montée ou de descente, c'est 2 mètres, 2 mètres 50 secondes. Quoi.
Alors ça veut dire qu'il ne donne pas la vitesse en vol, ça vous l'avez avec ce qu'on a à peu près tous dans la voiture, c'est le GPS.
Voilà, on a un GPS d'appoint, mais ça c'est notre matériel à nous, qui n'est pas obligatoire. On peut voler sans GPS et on peut même également voler sans radio, sauf si on vole dans une zone contrôlée, il faut rentrer en contact avec la tour de contrôle.
Alors on va dans un instant parler des brûleurs, on en a déjà dit un mot, ils vont se mettre en action avec le ventilateur pour gonfler d'abord l'air froid et ensuite l'air chaud, c'est
ce qu'on va entendre. Donc on va mettre en forme le ballon, la toile, l'enveloppe avec le ventilateur. Et ensuite, quand la toile sera en forme, à ce moment-là, on action des brûleurs et on lève le ballon. Vous comprenez bien que là, le ballon étant étalé, si je chauffe, je vais tout brûler.
Ça veut dire que ça va prendre combien de temps, grosso modo, pour ce 3000 m3?
Là, en un quart d'heure, tout est levé. Là. Après, donc, consigne de sécurité pour les passagers et ensuite, on s'envole. Voilà.
Et on peut préciser que le ballon est attaché à la voiture qui a servi à remorquer la nacelle, ça aussi c'est une règle obligatoire.
C'est une règle obligatoire, avant chaque décollage, si jamais il y avait un dernier thermique, un coup de vent, comme en voiture, il y a des choses qu'on fait, puis il y a des choses qu'on fait pas, voilà.
Alors on va encore raccourcir le temps et dans une seconde, on va déclencher le ventilo et les brûleurs et on se retrouve au moment de l'embarquement.
Allez, les passagers, montez vite, on va faire du poids.
Ouais. Donc, l'air chaud, 2-3 petits coups de brûleur, hop, et on décolle. Donc faites bien attention au décollage. Et voilà. Et là, on prend le vent, vous sentez ?
Et notre quatrième rendez-vous au cœur de cette montgolfière, à proximité de Saint-Pardoux. Nous sommes au site de Vauguenise précisément. Nous sommes toujours avec notre pilote plus que jamais, Alain Claude, plus que jamais, parce que là nous sommes juste un tout petit peu grimpés dans les airs. Vous venez de me confirmer, on a dépassé quoi ?
Là nous sommes à 540 mètres, une fois et demie la tour Eiffel. Quoi. Bon. Personne n'a le vertige.
Tout se passe bien. L'équipage est rassuré, le pilote également.
Le pilote pas trop, mais enfin bon, il y a l'équipage pour rassurer le pilote. Regardez, on voit bien Limoges là-bas, tout au bout. Donc là, on a vraiment une visibilité extraordinaire sur le lac de Saint-Pardoux, sur Limoges là-bas derrière la ligne de crête. On voit les monts d'Ambazac, on voit tous les monts de Blon également là-bas, Bessines sur Gartempe, Château-Ponsac et même les tours de Civaux.
On dirige pas finalement, on se laisse un peu porter par les airs.
Alors on est porté par le vent, on est la plume au vent, mais rien ne nous empêche par rapport aux hauteurs de vol et par rapport à l'utilisation du relief. Dans une petite vallée, forcément le vent va changer et va partir dans la petite vallée. Donc on essaye de jouer bien sûr avec les vents, avec l'altitude et avec la direction de vent suivant les hauteurs et la topographie du terrain.
Donc c'est plutôt calme comme mouvement, on est vraiment tranquille. Certains peuvent avoir peur d'être ballottés par les vents, c'est pas le cas.
Au décollage un petit peu, on risque, à l'atterrissage un petit peu aussi, mais pendant le vol, on est vraiment, c'est très paisible, vous le remarquez vous-même, c'est très tranquille.
Et au sein du club, vous avez un pilote d'Air France qui a comparé un peu les commandes d'un Airbus avec la commande d'une montgolfière.
Oui, ben c'est pas du tout le même métier. Là, on a des chevaux, on a des moteurs puissants. On vole à des altitudes importantes, et puis là, c'est que du feeling, que de la finesse, que du senti. Alors bon, après, on aime, on n'aime pas, mais et puis même lui, Patrick Dossi, pour ne pas le nommer, il adore voler en ballon, bien sûr. C'est du feeling. On descend, il faut que je chauffe.
Donc là, en termes de chiffres, sur des vitesses maximales, des hauteurs maximales,
On respecte la réglementation aérienne du vol à vue. Donc on peut monter jusqu'à un petit peu en dessus de 6000 mètres, mais aucun intérêt à monter là-haut. Et en plus, au-dessus de 4000, on est obligé de prendre de l'oxygène pour le pilote et les passagers. Donc on reste toujours dans la configuration de voler ici dans le Limousin. Quand on vole à 1000 mètres, c'est le maximum, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Après, le relief s'écrase, on ne voit plus rien. Donc l'intérêt, c'est de voler à 150, 200 mètres au-dessus de la canopée, quoi.
Et sans plan de vol ?
Sans plan de vol.
Donc là, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on arrive à descendre très près des arbres et à remonter à la fois par l'effet brûleur et par les courants de vent.
Non, l'effet de vent, non, c'est le brûleur, hein, c'est l'air chaud dans le ballon qui nous remonte. Hein. Vous voyez, là, on ralentit, là, on est dans le creux. Ah, on avance quand même encore à 13 km/h.
Il n'y a pas de thermomètre dans la nacelle, mais il ne fait pas froid.
Il ne fait pas froid, hein. Ben oui, il y a l'environnement du brûleur, il y a le retour aussi d'air chaud du ballon. Donc tout ça, ça fait qu'on est dans un environnement quand même très très chaud. Et c'est très très calme, les vaches nous saluent. Salut Marguerite. Eric, si tu me reçois, Eric.
Donc là, on va profiter de la balade et on commence déjà à s'assurer de l'arrivée. Ça veut dire qu'il y a un réceptionneur.
Oui, oui, donc il y a la récupération qui suit. Hein.
Donc, tout l'intérêt d'informer la personne au sol de l'endroit où on va se poser, oui. Parce que c'est pas décidé au départ, évidemment.
Ou alors raser, là. On va essayer de se faire amener dans ces coins-là, vers raser.
Là, comment on jauge concrètement ce qui nous reste en autonomie ?
Là, il y a des jauges ici qui décollent à... Je vais descendre un peu.
Et on profite du voyage, on se retrouve sur le dernier rendez-vous pour... Le retour au sol. Notre dernier rendez-vous au cœur de l'univers de la Montgolfière. Nous sommes, je vous le rappelle, avec Alain Claude, pilote aérostier dans l'association Haute-Vienne Montgolfière Club, ici au lieu-dit Vaugenige à Saint-Pardoux. Et pour tout vous dire, nous sommes en phase de préparation de l'atterrissage. Donc là, Alain-Claude, on choisit le site, on essaye de se diriger vers le site.
On essaye de se diriger, c'est plutôt le vent qui nous dirige. C'est compliqué, on a beaucoup d'arbres autour, là, on va voir un peu ce qu'on peut faire.
Donc là, le site d'atterrissage change constamment en fonction d'où le vent nous porte.
Oui, complètement, là, vous voyez, maintenant on est reparti, on va sur la droite, là, maintenant. Donc à la limite, c'est peut-être une bonne opportunité, oui, parce qu'on va pouvoir peut-être se poser par là, et là, ça serait peut-être un bon plan.
On est à combien d'altitude pour l'instant ?
Là, on est au-dessus des arbres, on est à 50 mètres là, à peu près.
Quels sont les éléments à préparer pour commencer à amorcer cette descente ?
Là, je soupape un peu là, pour ne pas remonter. Et merde, vous voyez, on était bien parti.
C'est le vrai voyage surprise.
Là, c'était bon. Là-bas, c'était bon. Et je pense que... Peut-être au dernier moment, là, on va glisser par là, peut-être. On essaye de jouer pour glisser. Alors, s'il y a de la place derrière, je risque de descendre assez rapidement. Donc, on va voir, juste après la rangée d'arbres.
Vous nous faites une arrivée sport ?
Arrivée sportive.
Donc là, les consignes pour un atterrissage un peu rapide ?
Oui. Alors, vous fléchissez. Les bois vont nous repousser, c'est bon. Attention. Allez, on fléchit. Encore un petit coup, on remonte. Hop, ça y est, c'est fini.
Ça s'est très bien passé.
Très bien passé. Hein ? Alors, je vais appeler Eric en lui disant qu'on est posé.
Donc là, le jeu, c'est qu'on est un peu entre quatre bois, donc il faut arriver à se faire identifier par le receveur.
Voilà, voilà. Donc là, la récup va être rigolote. Il y a juste un petit coin là, après ça va aller là. Il y a juste ce coin là. Ça va ? Ouais. Ça va ? Il y a encore 10 mètres.
Okay. Encore ? Encore, faut monter un peu.
Ouais. C'est bon.
Donc là, la fin du travail, c'est le repli de la toile.
Voilà, on va replier maintenant la toile. On est posé dans un champ, il y a la voiture à côté. Grâce aux équipiers qui ont poussé le ballon sur, je dirais, 150 mètres quand même. Hein. D'ailleurs, le speaker est très essoufflé. Moi, ça va, j'étais obligé de rester dans la nacelle.
Moi, mais... je veux faire pilote de Montgolfière.
Juste pour rester dans la nacelle après, quand on est au sol. D'accord. J'ai compris.
En tout cas, ça fait une aventure, ça fait partie du folklore aussi de la Montgolfière. C'est aussi le petit plaisir de l'imprévu.
De l'imprévu. Là, effectivement, ça fait longtemps qu'on... Et encore, là, le propos est réussi parce que même on a tiré le ballon sur 150 mètres parce qu'on était dans un creux. Mais le véhicule est à 2 mètres là maintenant. Donc on va pouvoir repartir tranquillement. Sinon, il y a même des fois où j'ai vu, on a été chercher les tronçonneuses pour aller chercher le ballon qui était posé dans une clairière inaccessible. Voilà. Donc ce sont les aléas de la montgolfière, mais c'est toujours la sécurité qui prime. Et là, ce pré était très approprié. Vous avez vu, on a fait un posé très doux, très calme. Bon, bah maintenant, il n'y avait pas de route à côté. Le vent nous amenait pas dans le bon sens. Et ben, à un moment donné, au bout de 40 minutes de vol, vaut mieux poser. Voilà.
Alors, on se dit simplement qu'on a du mal avec notre sac de couchage quand on revient du camping pour replier. Là, c'est pas gagné.
Pour replier ? Oh non, vous allez voir, en un quart d'heure, c'est plié là.
Quand on voit la taille de la toile et la taille du sac, on a du mal à s'imaginer que ça peut rentrer à l'intérieur et pourtant...
Et pourtant, tout va rentrer dedans. Hein. On va prendre le sac, on va prendre notre temps et puis on va tout remettre dans le sac.
Et n'empêche qu'on a toujours les yeux qui brillent, les yeux d'un gosse quand on arrive à poser son engin.
Exactement, exactement. Et même moi, le pilote, je remercie toujours tous les dieux, Vishnu, Jéhovah, tout le monde.
Bon, allez. On finit avec... Il y a une petite tradition.
Alors, il y a une petite tradition dans l'aérostation que l'on respecte. Donc, vous avez vu, on est passé de la salvetta gazeuse. Et maintenant, on va boire un petit coup de champagne, voilà.
Pour
fêter ça. Et surtout pour nous remettre de toutes nos frayeurs.
Et demain, on recommence.
Et demain matin, on recommence. Allez, gagné.